Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moins il y aura de matchs à jouer, moins il y aura de points à prendre pour nos concurrents. Une leçon de mathématiques.
69, 64, 63,
11 x 14.
114.
154.
Compte tenu que j'ai eu mes diplômes dernièrement, maintenant je me prends pour un professeur de mathématiques.
Jusqu'à une heure,
l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue ce soir exceptionnellement jusqu'à 1h du matin en direct sur RMC, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Lionel Charbonnier est là comme tous les samedis. Salut Lionel.
Salut Gilbert, salut à tous.
Soir exceptionnel, l'avant-dernière journée de Ligue 1 et donc Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Salut les amis.
Les résultats les gars, avant vos 3 points, avant de vous accueillir aux 32-16 supporters des 10 clubs qui jouaient ce soir. Strasbourg, Paris 1 partout, Lens bat Ajaccio 3-0, Brest gagne à Marseille 2-1, Rennes bat Monaco 2-0, Lille bat Nantes 2-1, Lyon bat Reims 3-0, Clermont bat Lorient 2-0, Nice gagne à Montpellier 3-2, Toulouse-Auxerre 1 partout et Angers bat 3, 2-1, ça signifie que le PSG est champion, vous l'avez compris pour la 11e fois. Que Lens est sûr d'être deuxième, Marseille sûr d'être troisième, Strasbourg est maintenu, il y a encore du suspense désormais pour les courses, la course à la quatrième et cinquième place, et pour savoir qui va se maintenir entre Nantes et Auxerre, voilà le suspense de la semaine prochaine. D'ici 1h du matin, on va évidemment parler de tous les matchs. On va accueillir quelques-uns de nos envoyés spéciaux. On ira notamment à Marseille tout à l'heure. Et puis, on parlera de Bundesliga avant 1h du matin, puisque le titre s'est joué aujourd'hui. Et tout le monde attendait Dortmund. Et finalement, c'est le Bayern qui est champion. Paulo Breitner sera avec nous. Il est quasiment 23h. C'est l'heure des 3 points pour savoir de quoi Lionel et Daniel veulent parler en priorité. C'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel.
Alors, les 3 points sur une soirée multiplex, forcément, c'est compliqué. Alors, j'ai entendu que tu as dit en priorité, puisque de toute façon, on sait qu'on va parler de tout. Donc, s'il fallait que je commence par quelque chose, je crois que ce qui a été peut-être le plus intéressant ce soir, c'est ce qui se passe autour de la 4e, 5e et 6e place. Donc c'est la dégringolade de Monaco qui se confirme, donc la victoire de Rennes, c'est peut-être ça que j'ai envie de mettre en avant en premier. Lens qui confirme, même si on s'en doutait, donc c'était plus la semaine dernière que ça m'emballait, là j'ai trouvé ça normal qu'ils battent Ajaccio. Mais bon, Lens est en Ligue des Champions et ça c'est quand même pas rien comme nouvelle. Et puis évidemment la lutte qui va aller jusqu'au bout du bout du bout du bout entre Auxerre et Nantes la semaine prochaine, même si je vois pas trop, ça va être compliqué pour Nantes, mais bon. On va quand même se faire cette dernière journée autour de ça.
Lionel ?
Oui, bah je vais rejoindre Daniel parce que obligé de parler de Lens, qui est un formidable second, magnifique. Quelle progression de ce club, du vraiment du beau travail. Voilà, je pense qu'on va on va en parler. Et si tu parles de Lens, et bah t'es obligé quand même de parler du titre du PSG ce soir.
Oui, 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 bien sûr. De toute façon, on va en parler. C'était pas priorité, mais évidemment, t'as raison, Lionel, de me corriger.
Voilà,
là-dessus.
Parce que c'est un titre, c'est quand même un titre de plus. Et quand
et
t'as
un
formidable
en plus, hein.
Quand t'as un formidable second,
l'équipe qui a le plus gagné de titres dans l'histoire, c'est Paris maintenant.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut aussi en parler. C'est tout à fait normal. Un formidable second, bah fallait aller chercher quand même cette première place, le PSG l'a fait. Et puis en 3, bah la lutte pour le maintien, la JA, rien n'est fait, rien n'est, c'est incroyable, dans un dénouement incroyable, un pénalty arrêté par Lafont, à retirer pendant ce temps-là, la JOCR qui prend une barre, enfin qui a un tir à bout portant, qui loupe son tir, je crois que c'est Hein qui loupe son tir à bout portant, contre-attaque, la JOCR prend la barre, tout ça pendant qu'il y a un pénalty qui est en train de se tirer à Nantes, enfin un dénouement, un truc de fou, ça va être très dur pour le maintien, même pour la JA.
Et Lionel, j'imagine que ça t'a pas laissé insensible, bon, au-delà de ton amour pour Auxerre, hein, mais juste l'arrêt de Lafont. Qu'est-ce que t'en as pensé?
J'ai pensé.
Tu t'es dit que c'était injuste ou normal que ce soit retiré?
Alors,
je pense déjà que ce penalty-là fut un temps, de mon temps, il n'y avait jamais penalty. Des gardiens qui se sont déchirés, et moi peut-être le premier, je n'ai pas en mémoire, mais j'ai dû en faire. Et tu prends plus la tête du joueur que le ballon, et ça n'a pas fait penalty. Et ben là, c'est une évolution dans le jeu du gardien de but aussi.
Moi, je te parlais de l'arrêt de la fond. Moi, je te parlais du péno à retirer. Donc, c'est ça.
Ça, c'est la première chose.
Ouais.
Donc derrière, tu te dis, moi là-dessus, je me suis dit moi-même, c'est injuste. Lafond va l'arrêter, et Lafond l'arrête. En fin de compte, c'est pas injuste. Parce que c'est une véritable faute, c'est un geste de Lafond qui n'est pas maîtrisé dans les règles actuelles, tu dois siffler pénalty. Ensuite, cet arrêt, mais ça se joue franchement, mais au dixième de seconde. Alors maintenant, c'est la VAR, c'est un arrêt extraordinaire que fait Lafond, au-delà de toute considération pour la JA, mais c'est un véritable bel arrêt. Quand t'es Nantais, tu te dis, excuse-moi le terme, mais on s'est fait enfler.
Alors on va y revenir tout à l'heure, les gars. Faisons ça étape par étape, parce que bon, évidemment, on pourrait prendre les matchs dans n'importe quel sens ce soir. Donc on va le faire par ordre du classement. Mais j'aimerais d'abord faire un tour au rugby, parce qu'il y avait la finale de la Pro D2 ce soir entre Oyonnax et Grenoble, et le match vient de se terminer. Nicolas Paul Orsi, bonsoir. Nico, tu es là? Bon, il est peut-être pas là. Bon, en tout cas, c'est Oyonnax qui a gagné, sachez-le, face à Grenoble, souci de liaison sans doute avec le stade. Oyonnax donc gagne la Pro D2 et jouera sa place en top 14 la semaine prochaine face à Perpignan. Voilà pour le rugby. Alors le foot, il y a plein de choses à dire. Je l'ai dit, par ordre du classement. Bon, bah, démarrons quand même par le PSG. Alors à Strasbourg ce soir, un match nul ou une égalité a arrangé tout le monde, et Paris et Strasbourg. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé. À la fin, à partout, le PSG, ils ont plus trop forcé. Hein. Bon, je pense, voilà, tout le monde était content. 11e titre, Daniel. Après, on aura le temps la semaine prochaine de revenir sur l'impact de celui-là, parce que c'est sans doute le titre, on va dire, pas le plus controversé, mais peut-être le plus ennuyeux des 11 du PSG, je sais pas.
En fait, c'est complètement fou, Gilbert. C'est une espèce de paradoxe que, évidemment, on peut expliquer, qui est très dur à ressentir, j'imagine, pour les supporters du PSG. Parce que, moi, je me souviens, quand on était jeune, on regardait tout le temps, on regarde, tu sais, les palmarès, quelle est l'équipe qui a gagné le plus de championnats, celle qui a gagné le plus de Coupe de France. Et puis, évidemment, que pour les supporters du PSG, toutes les années où ils ont été derrière. Bon, alors d'abord, il y avait Saint-Etienne qui était un peu l'équipe intouchable avec ses 10 titres. Après, ce qu'il fallait, c'était rejoindre l'OM, qui était l'autre club qui avait beaucoup gagné. Lyon, tu as dépassé tout le monde. Et l'année où tu dépasses tout le monde, tu es le club qui a le plus de Coupe de France, tu es le club qui a le plus de championnats. Et ça arrive. L'année la plus terrible, une des plus terribles de l'histoire du club, chacun choisira où il a envie de la mettre, ou Coupe d'Europe, un nouvel échec, des histoires dans tous les sens, un entraîneur qui n'a jamais été accepté par personne, une saison que tout le monde veut oublier, un titre que tout le monde avait envie de mettre au placard immédiatement pour poser les seules questions qui intéressent les supporters du PSG aujourd'hui, c'est quelle évolution ? Quel va être le nouveau projet ? On a tout de suite très envie de savoir quel va être le futur entraîneur, quels vont être les nouveaux joueurs. Tu n'as à aucun moment été dans le présent, la satisfaction de jouir de ce titre. Ça n'a pas existé pour les supporters du PSG. Je parle de la majorité d'entre eux et j'en suis intimement convaincu de ça. Je crois qu'une minorité va... Enfin, est-ce qu'il y aura la fête ce soir ? Enfin, tu as battu un record. Est-ce qu'il y aura une fête quelque part ce soir dans Paris ? Est-ce que les supporters vont réellement fêter ça ? Je ne sais pas, il y avait des supporters à Strasbourg, donc peut-être eux là-bas, il va se passer quelque chose. Mais c'est quand même un grand, grand paradoxe ce que dorénavant propose ce PSG, qui a banalisé les titres, mais c'est dû aux moyens démesurés qu'ils ont. Donc c'est aussi, je vais terminer sur cette phrase, combien de fois on a pu faire en 17 ans d'after le débat sur qu'est-ce qui est le plus important dans le sport, le résultat ou ce qu'il y a autour, à savoir l'émotion, le lien qu'il peut y avoir entre les supporters et un club, la façon dont on se souvient des choses. Et tous ceux qui disent tout le temps, il n'y a que le résultat qui compte. Ben moi, je trouve que plus ça va, plus on a des exemples qui montrent que, le résultat, c'est important, mais tout ce qu'il y a autour, c'est ça qui fait en fait la force du sport, quoi. C'est comment tu te souviens des choses. Et là, ce titre, j'ai l'impression que les supporters du PSG, ils l'ont déjà mis au placard.
Lionel, t'es
d'accord ? Daniel, ouais, je voulais rebondir, c'est oui, il y a que le résultat qui compte, mais maintenant,
non,
parce que
on
regarde
moi.
Plus. Non, mais moi, je dis ça, je serai le premier à le dire, et je te rejoins sur ce point aujourd'hui, parce que tout simplement, c'est la banalisation de tous ces titres qu'il y a que le PSG a ramené, qui nous fait dire non, il y a plus que le résultat maintenant. On veut d'autres choses au PSG, mais c'est quand même c'est voilà, mais c'est pas rien de gagner des titres. Il y a
pas rien, Lionel. Bien sûr.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein, il y a pas de souci.
Mais t'obligeras pas la majorité des supporters du PSG à être heureux. Ils le sont pas vraiment
mais
ce soir.
Mais bien évidemment. Et ce que je voudrais pas entendre, et je l'ai déjà entendu de la part de plein de personnes, c'est un titre du PSG. Ils l'ont pas mérité.
Non,
je ne peux pas l'entendre.
Ne vais pas jusque là. Moi, je ne veux pas non plus dire Lens c'est le vrai champion ou Lens c'est ceci cela. Non, Lens on les félicite, on les adore, ils sont super.
C'est magnifique ce qu'a fait Lens.
Il y a un champion. Maintenant, il y a toutes les histoires autour qui font que ce titre n'est pas clinquant, qu'on a envie de passer
exactement,
à autre chose.
Banalise et tout ça,
et il voilà, existe. Ouais.
Les gars, s'il vous plaît, on continue le débat autour du PSG. On va aller à Lyon dans quelques secondes, parce qu'un hommage à Jean-Michel Aulas va démarrer. Edouard G est sur place. Juste, je me suis emmêlé les pinceaux sur la Pro D2. Là, parce qu'en fait, donc Oyonnax ce soir est promu en top 14 et Grenoble jouera un match d'accession contre le 13e, le top 14, qui devrait être Perpignan, mais on saura définitivement.
Je me disais, j'espère que tu t'étais trompé, j'ai pas osé te corriger, mais je sentais bien.
Tu connais en Pro D2, toi. Escroc. Bon voilà, en tout cas Grenoble peut encore monter. Edouard G à Lyon. Edouard, bonsoir. Edouard, est-il là?
Je suis là.
Bon,
vous m'entendez?
Salut Doudou.
On t'entend très bien.
Salut Daniel, salut Lionel.
Va-t-il se passer dans les minutes qui viennent?
Alors que s'est-il déjà passé tout au long du match? On en a parlé, beaucoup de banderoles, beaucoup d'émotions. Un Jean-Michel Aulas qui est allé du côté du COP Virage Nord. Et à l'instant, eh bien, il y a 36 grands témoins de ces 36 années qui sont rentrés sur la pelouse. On parle de Raymond Domenech, de Rémi Garde, de Florent Laville, de Sonny Anderson, d'Alexandre Lacazette, d'Alga Egerberg. Voilà, que ce soit des dirigeants, des élus ou des capitaines de l'OL, ça gardera aussi au niveau de ses plus proches collaborateurs tout au long de ses 36 ans. Ils ont fait une haie d'honneur et à l'instant Jean-Michel Aulas qui est arrivé et qui est rentré sur le stade, sur le terrain au milieu de cette haie d'honneur. Et c'est Alexandre Lacazette qui est allé lui donner un maillot 87 pour Jean-Michel Aulas. Et tous les grands témoins sont là avec un maillot et chacun derrière a une année. Et vous savez qu'il y en a même un, devinez, qui est l'année 2011.
Oula,
c'est facile, très facile.
De quoi? Moi, j'ai pas entendu, Doudou, ta question.
Chaque grand témoin est arrivé avec une date dans le dos.
Témoin de
2011. Alors, 2011, je comprends pas pourquoi 2011, mais en tout cas, c'est un ami de la famille, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Un Lyonnais, un ancien joueur?
Ah non, il a pas été joueur. Il intervient souvent dans l'after. C'est presque le gardien de but, quoi, au niveau de la prononciation. Faut pas le louper. Jérémy Lopez. Jérémy Lopez fait partie de ces 36 témoins.
On cherchait un joueur, nous.
Je vous parlais qu'il y avait des grands témoins différents, un peu, que ce soit des joueurs.
Il a réussi à s'incruster là, celui-là.
À s'incruster. Il est là, Jérémy Lopez.
Sociétaire de l'Académie française, s'il vous plaît.
Voilà,
la Comédie française, pardon.
Voilà. Et c'est vrai que
l'Académie et la Comédie.
Et donc en ce moment on est en train de passer un petit film pour récapituler ces 36 ans de présidence avec ses 75 trophées accrochés sur son palmarès, 2380 matchs, et parmi les 19 entraîneurs qu'il a entre guillemets usés, eh bien il y a Rémi Garde, il y a Bernard Lacombe, il y a Raymond Domenech, il y a aussi Jacques Santini dans cette allée des 36 témoins. Et on va voir un petit peu comment va se dérouler la suite de cet hommage, un hommage vraiment magnifique. Et on rappelle que John Textor n'est pas là, il est empêché par un enjeu familial, c'est son fils qui reçoit un diplôme dans son université américaine qui était fixé aujourd'hui.
Il va en avoir beaucoup cette année des empêchements, Textor.
En tout cas, cet empêchement là entre fait du bien à tout le monde.
Si on veut faire les rabat-joie,
ce soir.
Bah non, mais on est obligé. Il y a quand même quelques grands absents là. Textor.
Alors il est représenté par Michel Kang. Hein.
Juninho.
Ouais,
Alors ouais, après, on nous a annoncé.
Pour moi, c'est Juninho l'absent. Parce que Textor, justement, à la limite, je pourrais même dire, écoute, je me mets en retrait, en réserve, parce que pour moi, c'est l'histoire maintenant du futur. Et je laisse le Lyon que je vais remplacer faire la dernière fête ensemble et je me mets un peu à l'écart. Moi, je trouve même que c'est pas gênant l'absence de Textor. Celle de Juninho, forcément. Bah, dans l'histoire de l'OL, il est important, il est là. Oui, oui. Et c'est une cicatrice, alors, c'est la brouille, un peu la brouille.
Tu trouves pas que ça aurait été important que Textor, justement, fasse quelque chose pour montre qu'il va eu vraiment.
Il a fait quelque chose, il l'a viré, il a mis un coup de chausson.
Juste une précision, nous annonce mal. Depuis le début un invité surprise à la fin.
Voilà. Donc, il va peut-être arriver en jet.
Voilà, donc faut peut-être pas tirer des enseignements maintenant. Je peux vous dire que j'ai aucune information, savoir si ça peut être Juninho ou quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il fait pas partie de ces 36...
grande réconciliation avec Juninho là, comme ça au milieu du stade.
À l'américaine, voilà. ça peut être pas mal. Hein. Donc,
ouais, avec Textor donc, voilà, qui en fait est là et au milieu des deux.
Et qui descend en parachute.
Non mais franchement, il y a une superbe énergie, superbe ambiance ce soir à l'image des 36 ans de Jean-Michel Aulas. Et c'est vrai que voilà, il y a des larmes sur le visage de Jean-Michel Aulas. Hein. Ouais, beaucoup d'émotions. Et pour tout le monde, même moi, hein, 25 ans de ma vie là qui s'effacent parce que ça fait 25 ans que je suis l'OL. Près de 1200 matchs avec Jean-Michel Aulas, quelques cartons jaunes. Un ou deux cartons rouges, peut-être, un petit peu, hein, Daniel, Gilbert, merci.
Ah non, nous, il a tenté le carton rouge, mais on a été sauvé par la commission de discipline.
Ouais, voilà, après, il y avait la commission de discipline qui se réunissait. Voilà, mais en tout cas, une page de l'histoire de beaucoup, beaucoup de Lyonnais. Et on voit beaucoup d'émotions sur les joues un petit peu de tout le monde.
Nous aussi, on lui a mis des cartons jaunes. Hein.
Oui, non, mais il y en a eu de part et d'autre. Hein. C'était viril, mais correct. Voilà, on va voir la suite. Et ben, je vous rappelle s'il y a un invité
surprise.
Mais voilà, et à la limite, si vous avez le temps, faites le 06 de Jérémy Lopez et il vous dira un petit peu comment il a vécu tout ça. Mais en tout cas, vraiment une très très belle soirée pleine d'énergie et pleine d'hommage ici à un président éternel de l'OL, comme l'ont rappelé les supporters. Et bien depuis 17h30, hein, parce qu'il y a eu Lyon-Reims au féminin avec le 17e titre pour le 16e titre de championne de France pour les Lyonnaises. Imaginez-vous, 75 titres pour Jean-Michel Aulas en 36 ans de présidence ici à l'OL.
Attends, 75 titres ?
Ouais.
Bah là, on compte aussi les champions de France U17 et tout, là ?
Ouais, les Gambardella, bah les filles, déjà, ça en fait beaucoup. Oui, tout ça, ouais.
Bah, les trophées des champions. Je trouve ça énorme.
Ouais. Bah, depuis même le titre de champion de France des deux en 89, voilà, donc tout est compté.
D'ailleurs, Gentil Gala n'est pas là.
Non, Jeannot Tigana n'est pas là.
C'est parti des autres.
Donc il va y avoir un feu d'artifice après. Et je vous appelle dès que j'ai le nom et dès que je vois apparaître l'invité surprise. Suspense.
Très bien. Oui, Jean Tigana qui était aussi fâché. Hein, parce qu'il part souvent fâché. Tu t'es jamais fâché avec Tigana, Lionel ?
Bref, c'est dur de ne pas se fâcher avec Tigana. Hein.
Non. Je ne l'ai pas trop côtoyé.
Ouais, bon. Bah voilà, c'est pour ça.
À tout à l'heure, Edouard. Revenons au PSG. On a Adamou avec nous au 32-16. Bonsoir. Salut Adamou.
Oui, bonsoir.
Bon, on parlait du titre, Adamou. Là, parmi les 11.
Adamou, comme le chanteur.
Adamou, il y a un U à la fin.
Ah oui, c'est vrai.
Adamou, tu sais que bon, le PSG 11 titres, tu sais qu'il y en a 10.
J'ai pas compris.
Je dis le PSG 11 titres, c'est un record, tu sais qu'il y en a 10, qui est le deuxième.
Oui, effectivement, c'est le 11e, mais bon.
Je te pose une question.
Dis-moi.
Là, le PSG a 11 titres, c'est un record. Quel est le club qui en a 10?
Saint-Etienne.
Tout à fait. Quel est le club qui en a 9?
Marseille, me semble.
Bien joué. Allez, puisque tu es fort, quels sont les deux clubs qui en ont 8?
Ah, plus difficile,
Lyon
ça.
Lyon déjà.
Lyon 7.
Non. Ah, Lyon 7. Je sais pas, alors, du coup.
Nantes et Monaco.
Nantes et Monaco. Bon, j'étais trop loin, alors, du coup.
Bon, t'as déjà le podium, c'est déjà pas mal.
Je pensais pas ça. Pas mal.
Bon, alors, sur ce 11e titre, là, t'es d'accord parce que t'as entendu tout à l'heure, là, c'est sans doute le plus étrange des 11.
Oh, c'est pire qu'étrange, mais bon, c'est un titre. Voilà, on va dire que c'est un titre. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est même pas par rapport au 11e titre, en fait. Moi, je veux juste qu'on passe directement, en fait, à l'année prochaine, en fait. si on pouvait passer, si on pouvait effacer cette comment ça va encore cette saison, ce serait parfait pour tous les supporters parisiens, je pense.
Tu vois, je suis d'accord, on est d'accord, et la plupart des supporters du PSG disent la même chose, Adamou, t'as raison, moi, je sors ta ligne.
C'est une saison médiocre, honnêtement, cette saison-là, si on pouvait même l'effacer, même de, je vais pas dire quand même de notre liste de trophées, parce que quand même, mine de rien, c'est quand même un trophée, c'est 11e titre, maintenant on est les champions des champions, ça il faut le dire, il faut le respecter de ce côté-là, mais ce soir, je vais pas le fêter, quoi, en fait. Ça,
tu sais, Adamou,
on est champions, des champions, et puis voilà.
Il ne faut jamais oublier que si les choses étaient faites normalement et s'il n'y avait pas eu quelque chose de très 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 bizarre dans l'histoire de notre football, le 11e titre, en fait, il aurait dû arriver l'année dernière.
Parce que ce soir,
c'est le 12e. Parce qu'on est bien le seul pays où une année, une équipe a été disqualifiée, ce n'est pas le 2e qui a été sacré.
93, voilà. En l'occurrence.
Voilà, donc ce titre-là, normalement... à partir du moment où une équipe est disqualifiée, c'est le 2e qui est champion. Normalement, c'est comme ça dans tous les sports, mais il se trouve qu'une fois dans l'histoire de ce football, ça n'a pas eu lieu pour des raisons politiques très bizarres. Mais enfin bon, écoute, voilà. Donc c'est le 12e, c'est le 12e ce soir, en fait.
Bon, bah, ok. Moi, j'ai juste envie de parler d'un truc, en fait. C'est juste que, à Paris, je fais une effectif, en fait. Je vais en groupe, en fait, à Paris. Moi, je veux pas d'individualité.
Bah oui.
À Paris, nous, on a besoin des joueurs. Des joueurs. Et non pas des petits chichis, des petits gris-gris, en fait. Aujourd'hui, à Paris, on n'a plus de joueurs. Pour moi, personnellement, il nous faut des vrais milieux de terrain. Des vrais milieux de terrain, déjà, qui vont courir de gauche à droite, qui vont courir pendant 90 minutes, et non pas qui vont courir pendant 35 minutes ou 60 minutes maximum, quoi, en fait. On a besoin des vrais joueurs à Paris, qui veulent venir à Paris pour jouer, et non pas qui viennent à Paris pour de l'argent. Ça, par contre, il faut que Nasser, il mette ça dans sa tête, en fait. Je ne sais pas si c'est Nasser qui fait le recrutement ou si c'est au Campos ou je ne sais pas c'est qui.
Mais j'allais y venir. Campos, il joue à Séville, il ne peut pas tout faire. J'allais y venir.
Tout le monde s'amère, en fait.
Mais j'allais y venir, Adamou. L'année prochaine, Adamou, tu veux changer d'entraîneur ou tu repars
avec Galtier? Lionel, qu'est-ce que tu veux faire?
Pour moi, personnellement, j'ai rien du tout contre Christophe Galtier, mais pour moi, il n'a pas les épaules aussi larges pour le PSG. Voilà, c'est mon avis.
Donc, voilà. À partir de là, avant de parler des joueurs, avant de parler de l'effectif, est-ce que tu ne penses pas, pour partir du bon pied, pour construire une équipe, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir déjà le nom de l'entraîneur, sa visibilité? Et ensuite, lui donner un effectif, enfin, lui donner qu'il fasse un effectif avec ses propres visions pour faire gagner le PSG et notamment en Champions League.
Est-ce que oui, c'est pour monsieur, toi, ça serait oui, pas monsieur la Charbonnier. Oui, monsieur Charbonnier, vous avez raison.
Mais voilà. Mais c'est parce que j'entends tout le temps les gens et Adamou, je pense que quand il nous entend parler, il a envie de ça aussi, mais tout le monde parle de l'effectif, des joueurs. Mais quel sera déjà l'entraîneur et après les joueurs? C'est ça qui ça m'embête, parce que on a mis ça tellement dans la tête aujourd'hui des supporters, mais c'est pas spécial au PSG. On parle déjà des individualités, des joueurs. On va recruter celui-là. On sait même pas qui on aura la baguette. On connaît même pas le chef d'orchestre, mais on fait déjà un effectif et après démerde-toi avec ça. Mais on prend tout le temps le problème à l'envers. Et pour moi, il faut déjà mettre un entraîneur, savoir le faire parler, qu'est-ce qu'il veut faire et quelles sont les différentes pièces, parce que je veux pas employer le mot individualité, mais les nouveaux joueurs qu'il voudrait imbriquer avec ceux qui existent déjà. Pour moi, c'est la logique.
Mais déjà pour moi, Paris, en fait, c'est le seul club, en fait, j'ai l'impression que c'est le club med, en fait. Pourquoi je dis ça, en fait, c'est que même les entraîneurs, on ne sait même pas quel entraîneur va venir à Paris. Il y a 5 listes, j'ai l'impression que chaque jour que je réveille, que je me lève, en fait, il y a un nouvel entraîneur qui sort, en fait, de la
liste. C'est vrai que cette semaine,
chaque
il y en a
jour,
eu deux.
Il y a un nouveau nom qui sort. Chaque jour. Bah, à Paris, je comprends rien, en fait, à Paris. Je sais pas si ce club est respecté ou pas dans le monde, ou si je comprends rien. Nous, les supporters, on est là, on pleure, on lâche tout sur le terrain pour nos joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils ne respectent pas, en fait. Mais par contre, qui ne respecte pas? C'est les joueurs qui ne respectent pas ou c'est les dirigeants qui ne respectent pas? Moi, ça, je ne comprends pas, en fait.
Ben, parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Là, tu as bien suivi que l'histoire de Luis Enrique est venue du Qatar et qu'en fait, vraisemblablement, c'est autour de l'émir ou l'émir lui-même qui aime bien Luis Enrique. Ce n'est pas venu de Campos ou de quelqu'un d'autre à Paris. Donc voilà, y a c'est la lisibilité et la prise de décision qui est compliquée.
D'où vient la décision? C'est toujours la grande question.
Et est-ce que ça serait pas Campos de justement de choisir son propre entraîneur?
Là, sur Galtier, apparemment, c'est Campos. Mais bon.
Il nous a ramené Galtier, mais il n'a pas fait le long feu, Galtier.
Vu la réussite que ça a été, on va lui redonner la possibilité de choisir.
Voilà, il s'est trompé aussi. Ouais, il s'est trompé aussi sur un ou deux joueurs dans l'effectif. Après, bon, il peut se tromper une fois. Il peut réviser sa copie. Et puis, tout le monde se trompe. Il n'y a que ceux qui foutent rien, qui se trompent pas. Voilà, moi, je pense qu'il a fait aussi des bonnes choses. Maintenant, est-ce que c'est à l'émir de choisir l'entraîneur? Enfin, moi, je comprends.
Non, mais là, honnêtement, là, on brasse, hein, parce que tout ça, on le sait, on sait comment ça se passe, on sait que là, on va entrer dans une période de rumeurs où, effectivement, il y aura ceux qui vont essayer de choper des infos depuis leur lien ou relation au Qatar, d'autres auprès de Campos, qui, en plus, cette semaine, n'était pas présent et, à mon avis, avait autre chose à faire que la tête à parler de ça. Donc, je crois qu'il y a une shortlist qu'on connaît à peu près tous. Et pour ce qui sera de la décision finale, c'est ça le grand mystère.
T'en as combien dans la shortlist, toi? Dans la tienne d'influence. Ou dans celle de Campos?
Non, mais c'est de toute façon, il n'y a pas tellement de mystère. Il y a les gars qui sont déjà sur. Qui sont dans des clubs de standing inférieur, ceux qui sont libres. Donc, évidemment, que Luis Enrique, émir ou pas émir, il était dans cette liste, au même titre que, oui, ceux qu'on a cités, les Mota, les Xabi Alonso, Mourinho. Il n'y a pas tellement de mystère sur le profil qui va venir. Mais c'est toi qui as posé le vrai problème. C'est est-ce que on va. D'ailleurs, je pense que tout va s'accélérer maintenant que le titre a été acquis. Je pense que dès cette semaine, on va savoir.
Je pense aussi, ouais.
Donc, le nom de l'entraîneur et effectivement, ensuite. Que l'entraîneur travaille avec le directeur sportif sur les profils qu'il veut. Mais tu vois, le problème, c'est que même dans ta solution qui semblait idéale, Lionel, et je partage ton avis là-dessus, la question, ça va être aussi de savoir qu'est-ce que tu vas faire de tous les joueurs que tu dois récupérer. Est-ce que tu vas pouvoir t'en débarrasser? Est-ce que les deux stars qui sont dans ton effectif, tu peux t'en débarrasser? C'est pas simple de se débarrasser. Messi, bon, il est en fin de contrat, mais de Neymar. Donc l'entraîneur, il va vouloir savoir ça. Il va se dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, avec tout cet effectif-là? Vous me recrutez des nouveaux joueurs et ces gars-là, vous vous démerdez pour me les sortir? Quelles garanties vous me donnez? Et on sait bien que les garanties et les promesses, elles sont bizarres.
Ça, c'est
le taf
d'Ocampos aussi. Hein.
Arrêtez de l'appeler Ocampos, il s'appelle Campos. Ouais. Bah, c'est son taf. Le problème, c'est toujours pareil. On ne sait jamais qui.
Aussi se débarrasser. Se débarrasser.
Mais l'année dernière, Lionel, ils ont essayé de se débarrasser. Ouais. Ils n'ont pas, à part prêter des mecs et continuer de payer le salaire, ils n'ont rien trouvé
fois,
de mieux.
Des fois, il va falloir que tu donnes de l'argent, des fois, pour t'en débarrasser, ça se trouve.
Voilà. Mais déjà, l'année dernière, je disais que c'était la solution et qu'il fallait donner de l'argent pour se débarrasser des gars et vider le vestiaire des problèmes. Peut-être que ça va être enfin cette année. De toute façon, il ne reste que l'espoir au PSG, de toute façon. Il ne reste que les promesses et les espoirs. Donc, maintenant, on est entré dans la phase des promesses et des espoirs.
Bon, il y a quand même des supporters contents à Paris. Ahmed en fait partie. Salut Ahmed.
Ah, mais j'espère qu'il va faire la fête. Hein.
Merci de donner la parole.
Oui, pas Ahmed. De problème, Ahmed. Ah, bon.
Il fait la fête, Ahmed.
Toi, t'es quand même content, là?
Bah, je suis content pour ce 11e titre. Ça donne un peu de baume au cœur, mais ça ne fait pas oublier la saison non plus. Hein.
Donc, t'es content, pas une énorme joie quand même. Hein.
Bah, on va pas aller sur l'Arc de Triomphe faire la fête, c'est ça la question.
Ouais, je crois que j'avais compris, Ahmed, j'avais compris.
Donc voilà, j'espère que le ménage va être fait au mois de juillet, notamment les toughers, là, Verratti et Neymar, et qu'on reparte avec une équipe de joueurs professionnels. Voilà.
C'est le discours commun. Ce que dit Ahmed, ça rejoint ce que disait tout à l'heure l'autre auditeur. C'est le discours commun dans tous les supporters du PSG aujourd'hui. À la limite, tu leur dis une star, ils s'en foutent complètement. Oh. Ils veulent une équipe avec un collectif, 11 mecs qui courent dans le même sens. C'est en fait la base, ils veulent la base du foot. Le reste, c'est bon, ils se sont gavés de stars, de promesses, de gestes techniques, de trucs complètement tout ça, c'est bon, ils sont gavés, surgavés de ça. Maintenant, ils veulent autre chose. Ils veulent une vraie équipe de foot maintenant.
Alors, ce qu'on va faire, Ahmed, reste avec nous. Christophe Galtier arrive là, conférence de presse en direct à Strasbourg. On va écouter les premières questions, hein, parce qu'on ne sait jamais, hein, des fois qu'il annonce qu'il s'en va, par exemple, je ne sais pas.
Ça, heureux.
On écoute.
Heureux, parce que c'est un titre historique, et donc rendre hommage aussi à tous les prédécesseurs qui ont fait en sorte que ce 11e titre soit historique. Heureux parce que cet après-midi, évidemment, j'ai regardé un peu le multiplex en Allemagne et on s'aperçoit que d'être champion, et même champion en titre, c'est très difficile. Je le répète encore une fois, mais personne ne veut l'entendre. C'est une saison très particulière et il a fallu maintenir le cap, même quand on pensait que tout le monde avait la tête sous l'eau, maintenir le cap dans des moments très difficiles. Et évidemment que je rends hommage à mes joueurs qui n'ont rien lâché, qui ont toujours eu l'envie d'aller chercher ce titre, même dans des moments très difficiles. Et voilà, je suis très heureux. Et je ne veux surtout pas qu'on le banalise. Aujourd'hui, il nous manquait 8 joueurs. 7 joueurs ont fait le déplacement. Ils étaient présents avant le match, à l'hôtel, avant le match dans le vestiaire. Ça montre aussi l'état d'esprit qu'il y avait dans ce groupe, quoi que les gens puissent en penser.
Voilà, on écoute une autre.
Il est déconnecté, le pauvre. Franchement, moi, il me fait de la peine. Il est déconnecté.
Attends, il ne comprend pas. Après, Daniel, tu pourras réagir, bien sûr. La question est un peu longue.
C'est différent. La sensation, ce sont des émotions, différentes. Parce que quand nous avons été champions avec le OSC il y a 2 ans, c'était une performance incroyable de finir devant le PSG avec le LOSC, mais aussi dans une saison particulière, puisque c'est une saison Covid. Et nous avons su être champions, et c'était évidemment inattendu, et personne ne pouvait penser que le LOSC allait être champion. Mais quand vous arrivez au Paris Saint-Germain, il y a cette obligation de résultat, et pas que. Et l'émotion est totalement différente. Je ne suis pas dans le soulagement, je suis très heureux que le Paris Saint-Germain soit champion. Je suis très heureux d'avoir dirigé cette équipe et qu'on ait pu l'amener vers ce titre. Mais évidemment, les saveurs ne sont pas les mêmes.
Voilà, pour Galtier, on continue d'écouter en coulisses, hein, si jamais il fait des annonces. Avant de reprendre Ahmed, oui, Daniel, juste je précise qu'effectivement, Nasser El-Khelaifi était au stade de la Mélo. On a vu Marquinhos, on a vu Hakimi, enfin pas mal, effectivement, les joueurs blessés, absents, qui étaient présents. Donc, sans doute qu'on leur a bien expliqué qu'il fallait qu'ils soient là, hein, ce soir.
Oui, bah, c'est normal pour le titre qu'ils soient là. Mais enfin, moi, je reviens sur ce que disait Galtier, il est complètement déconnecté. Moi, il me fait presque de la peine. Tous ses propos tombent à côté de la plaque. En fait, c'est comme s'il parlait une langue et il avait face à lui des supporters du PSG qui ne comprenaient pas. On ne comprend pas ce qu'il dit, on s'en fout de ce qu'il raconte. Il est là, lui, il parle pour lui, c'est son titre, c'est machin. Mais tu as bien entendu les supporters qui téléphonent. Et ils ne téléphonent pas que chez nous, ils téléphonent dans toutes les émissions. Ils tiennent les mêmes propos, c'est ce qu'on lit partout. C'est ça. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il... C'est comme s'il avait vécu la saison ailleurs. Je pense qu'il va ressortir profondément marqué de cette expérience au Paris Saint-Germain, Galtier. On dit souvent que les mecs qui ont été sur le banc ressortent essorés et ont du mal, hein, d'ailleurs, à rebondir, à part Tourelle qui avait rebondi plus vite que les autres. Mais lui, je pense qu'il sera marqué et essoré pendant longtemps.
Après, Daniel, il dit que ça a été difficile. C'était un titre... Il a fallu que ces joueurs ne lâchent rien du début à la fin. Alors même si effectivement ils ont lâché, mais il y a eu des, ben c'est comme ça, c'est un titre, ça se gagne. Il y a des moments forts, des moments plus faibles. Il y a eu des moments très faibles quand il y a eu cette élimination en Champions League. Faut rebondir, tout ça, c'est fatigant et pour l'entraîneur, et je te rejoins là-dessus, et aussi pour les joueurs. Mais il dit que ça a été un titre quand même compliqué. Et c'est vrai que si ces joueurs avaient complètement lâché, on l'a vu, même les individualités n'auraient pas. Bah, comme ce soir, Mbappé, on ne l'a pas vu. Même les individualités n'y seraient pas arrivées. Il a fallu quand même une grosse mobilisation de la part de ces joueurs-là. Ça a été un titre dans la difficulté.
Ce que ça me dit, Lionel, c'est plutôt que même dans une saison terrible, même avec les problèmes de vestiaire, même avec l'extra-sportif, même avec des joueurs très souvent blessés, l'écart il est tellement énorme que le PSG arrive à être champion. Et que, mis à part, le LOSC il y a 2 ans, qui avait fait une saison extraordinaire, Monaco 2017, le PSG, il est toujours dans un fauteuil. Et quelque part, pardonne-moi, mais ça en dit long sur le niveau de notre Ligue 1. Après, pas étonnant, on ne va pas refaire toute l'histoire de ce qu'on a vécu en Coupe d'Europe cette année avec nos clubs. Mais finalement, quand tu vois que ce PSG arrive à être champion tranquillement, malgré tous les problèmes, je crois qu'en Ligue 1, on ne peut même pas ressortir 2 bons matchs du PSG en Ligue 1. Des matchs où les supporters ont vibré, où ont ressenti quelque chose de fort. Je ne sais pas si on a deux.
J'avais beaucoup aimé le
Lionel,
début de saison.
C'est quand même très particulier. Si on prend... Oui, oui, jusqu'à la Coupe du Monde. Effectivement, il y a
après,
des bons matchs.
Après, on l'avait dit aussi. On avait
le problème,
anticipé.
C'est que tu vas pas
on avait dit,
citer.
Attendons à l'après Coupe du Monde, attendons de savoir comment ça. On l'avait dit tout ça.
Oui, mais le problème, c'est que tu
mais
ne vas
jusqu'à
pas,
la coupe
tu
du
vas
monde,
pas citer de moments. De moments de communion, de gros matchs où tu vas te dire le PSG.
Je suis d'accord.
Et ça, c'est terrible. Quand t'es champion, normalement, tu sais, un supporter, toi, t'as vécu ça aussi à tout. Tu sais, t'as des repères dans l'année. Tu dis, ah, tu te souviens un tel, un tel.
Ouais, mais il y a cette banalisation aussi. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, ça,
mais ça.
Ça fait
et
que
la banalisation,
quand t'es trop habitué,
elle vient aussi de tout ce qu'il y a autour. La banalisation, c'est pas la victoire. C'est la banalisation des déconvenues, des déceptions, la banalisation des désillusions. Et cette année, on a
de certains comportements aussi qui ont mal été gérés.
Des joueurs,
on a banalisé aussi les comportements.
C'est ça qui est, en fait, ce qui banalise, Lionel. On dit, on se trompe d'ailleurs quand on dit ça. Quand on dit ouais, la victoire c'est banalisé, machin et tout. Oui, par certains aspects peut-être. Mais ce qui rend le plus amer les supporters du PSG, c'est la banalisation des déceptions, la banalisation des attitudes, comme tu as dit, du comportement des joueurs, des affaires extrasportives. C'est ça qui finit par saouler et qui fait que les mecs se détournent un petit peu ou ont fait la gueule cette année et ont encore manqué de faire encore grève comme l'année dernière.
C'est pour ça, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part des supporters qui ont tapé du poing sur la table en prenant position.
On va conclure. Ahmed, tu veux rajouter un truc? T'as entendu Galtier, là?
Il est premier en difficulté avec un OM qui est dernier de sa poule de Ligue des Champions, qui est une poule d'Europa League, qui se fait taper par Annecy à domicile en Coupe de France. Il a Lens qui est deuxième. Lyon et Monaco et Rennes font n'importe quoi depuis 2 ans. Heureusement que t'es premier. Mais t'as pas de concurrence quasiment. Même en marchant, on arrive à être premier. Mais voilà, on s'est fait sortir 2 fois en 8e de Ligue des Champions de suite. On prolonge Verratti. Ça, je pense que c'est ça qui a fait exploser le cup. Là, ils se sont dit, c'est la fête au village, c'est le Club Med. Donc, Galtier, je comprends que pour lui-même, il est content pour le titre. Mais nous, on se retrouve avec une maison en feu et il faut que l'année prochaine, il y ait beaucoup de ménage.
Oui.
Merci, Ahmed.
Je comprends.
Voilà pour Paris.
Salut,
il est 23h33. Alors, Galtier vient de déclarer qu'il méritait de continuer. Il dit, moi, je pense que je suis champion, je mérite de continuer. Voilà ce qu'il a dit.
Arrête.
Bah oui,
il croit vraiment qu'il peut rester, mais c'est une blague ou quoi?
Bah écoute, hein.
Mais franchement, il habite où? Enfin, quand il quitte le studio, là, il prend une fusée, il va sur Mars ou
il vient de se lever.
Il reste sur la planète Terre.
Je sais pas du coup s'il va sur Mars, mais
c'est
là,
incroyable.
Il est parti, fin de la conférence de presse. Donc il a dit,
c'est quand même incroyable
je mérite de continuer.
Il a été mauvais. Mais en plus, on veut plus de lui. Déjà qu'il n'aurait jamais dû mettre les pieds au PSG en tant que Marseillais, mais c'est bon, ça va, à Paris on l'a supporté, maintenant va-t'en. Mais sois digne, dis je veux partir. C'est quand même incroyable.
Dans un instant, Marseille
lance son
programme.
Franchement, j'en reviens pas qu'ils disent ça.
Bah, remets-toi, t'as 1 minute 46 pour te remettre et ensuite on continue le débat. A tout de suite, l'After est là jusqu'à 1h du matin avec tous les matchs au programme, évidemment. Le PSG est champion. Lens assuré d'être deuxième, on en parle dans quelques instants. La descente, Strasbourg maintenu, Nantes et Auxerre seront les deux clubs qui se disputeront la dernière place pour la Ligue 2 et la Ligue 1, donc en l'occurrence. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 1h.
L'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h36, on est là jusqu'à 1h du matin exceptionnellement ce soir avec Lionel Charbonnier, avec Daniel Riolo. L'avant-dernière journée de Ligue 1, les 10 matchs se sont joués en même temps. Après le PSG, on va maintenant parler de Lens qui a une nouvelle fois gagné ce soir à domicile face à Ajaccio. Un bilan à domicile dingue, hein. Que des victoires et un match nul. Voilà le bilan des Lensois, les gars. C'est effectivement... déroutant et bravo aux Lensois, assurés donc d'être deuxième ce soir, même s'ils avaient fait le plus dur.
Ouais, je crois que le plus dur de ce côté-là,
Marseille a perdu. Bon,
aussi bien le match de Lens que celui de l'OM n'était pas super intéressant. Je pense qu'on était résigné du côté de l'OM et la tête ailleurs, et convaincu à Lens que c'était fait. Moi, je trouve que en tout cas la fin de saison de Lens et la façon dont ce soir, c'est vrai. Contre Ajaccio, j'imaginais pas autre chose qu'une victoire, mais je trouve qu'ils ont mis la main sur cette fin de saison. Ils ont été hyper costauds, très solides, sur deux. Il n'y a pas eu de pied qui a tremblé. Les gros matchs, ils les ont gagnés.
Ils ont eu un petit moment au mois de février où il n'était pas très bien. Là.
Oui,
il
non, mais je remontais pas si loin. Moi, je parlais de la fin de saison. Mais tu sais, tu peux faire un parallèle avec l'année dernière où le passage à vide de janvier-février avait été bien plus préjudiciable parce qu'il avait
mieux
duré plus
géré.
Longtemps. Là, au final, il a été assez bref. Je ne sais même pas si on est arrivé à 3-4 matchs un peu plus compliqués. Mm-hmm. Mais immédiatement, la machine a été relancée et ils ont terminé en boulet de canon. Au contraire de l'OM, par exemple, qui termine très mal.
Comme quoi, tu apprends tes erreurs.
Les fins de saison, ça compte. Il faudra parler de Rennes tout à l'heure. Il reste encore un match et peut-être qu'effectivement, il y a des équipes qui, en réussissant les 2-3 derniers matchs, vont être à des positions meilleures que celles qu'on espérait il y a encore un mois et demi, deux mois.
Après, Gilbert, tu as dit un truc hyper important avec en énumérant le résultat de tous les matchs gagnés, un seul match nul du RC Lens à la maison devant son public, en totale contradiction avec ce qu'ont fait les Parisiens au parc. C'est-à-dire que là, les Lensois avaient à cœur devant leur public, et là c'était quelque chose parce que, ok, il y a un public qui vient, mais le public qui vient vers les joueurs, quand les joueurs vont chercher le public. Et là, ça a tout le temps été quelque chose, vraiment un vrai moteur, j'en suis certain, pour ces joueurs de se défoncer, ne serait-ce que pour ce public-là. Et c'est ce que les Parisiens n'ont pas réussi à faire. Et s'il y a eu autant de victoires et un seul match nul, enfin, en tout cas, des victoires et
aussi,
un seul match.
Excuse-moi, je l'ai oublié, contre Nice. Il y a une défaite contre Nice, exact. 1-0, c'était le 1er février.
Dans la période où ça allait un petit peu moins
et
bien.
Et le nul, c'était contre Lille, partout. Voilà. Ils ont battu le PSG 3-1, par exemple, à la maison.
Mais ça, c'est quand Marseille même à domicile. Marseille n'a pas réussi, encore une fois, non plus à faire le plein à la maison. Bien au contraire, avait des difficultés encore à la maison. Alors, est-ce que c'est à cause du jeu? Est-ce que c'est trop de pression? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais en tout cas, les Lensois, eux, ils l'ont réussi, ça. Et ça, c'est hyper important.
Faire le plein à domicile, c'est toujours important quand tu vises les premières places.
C'est le minimum.
Et ce que tu dis, c'est vrai, et ça oppose Marseille à Lens, c'est que Lens s'est servi de la force de ses supporters. Et il y a toujours eu cette osmose et, comme tu dis, l'échange et le rendu de l'un vers l'autre. Alors que Marseille, de ce côté-là, a perdu énormément de points. Encore ce soir, une défaite à domicile. C'est absolument terrible d'avoir... comme ça, connu ces matchs dont on a beaucoup parlé, le
Strasbourg, deuxième année,
le Montpellier, le Brest encore ce soir. Eux, on a l'impression
pour l'OM, c'est
que
la deuxième année, comme
les
ça,
65 000 à chaque match, l'ambiance, ça leur a pas fait du bien en fait. Ça les a plus tendus qu'autre chose.
Les gars, Edouard G nous appelle avec peut-être son invité surprise et une annonce qu'a fait Textor apparemment, Edouard.
Non, alors en fait, il n'y aura pas d'invité surprise. Donc Jean-Michel Aulas a fait un...
C'était la surprise,
surprise qu'il n'y avait pas de surprise.
Tu fais dans les promesses,
donc Jean-Michel Aulas... Tu as promis
l'invité surprise et voilà, c'est tout.
Alors peut-être que c'était Jérémy Lopez. La grande invité surprise. Donc un grand tour d'honneur pour Jean-Michel Aulas tout au long de, bien évidemment, il a pris son temps pour faire ce tour, et puis lui-même devant le COP Virage Nord a dit que ses 36 ans, ça représentait une vie pour vous, a-t-il dit aux supporters, pour ses 75 titres, pour gagner quelque chose, mais aussi pour vivre des moments incroyables. Et petite phrase à l'adresse de ses supporters, indirectement pour John Textor: je crois que l'OL peut être sur le toit de l'Europe, on peut y arriver, mais continuez comme vous êtes, c'est-à-dire d'être exigeant. Voilà les propos de Jean-Michel Aulas qu'il a dit dans le stade, devant les supporters.
Pardon,
soyez
mais qu'est-ce que ça
exigeants.
Veut dire là? Je ne comprends pas.
Peut-être continuer d'encourager, et puis quand ça va mal, peut-être de continuer de ce que vous m'avez un petit peu fait parfois, c'est-à-dire de me tenser, de me pousser dans mes grands retranchements. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. J'interprète peut-être un petit peu
trop,
mais en tout cas, voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas au micro du stade, et il a terminé son tour d'honneur avec toujours les 36 grands témoins de Sonny Anderson, de Caveglia, de Rémi Garde, Claudio Cassapa ou encore Wendy Renard et Agda Egerberg. Donc, place maintenant au feu d'artifice pour clore ces 36 ans de présidence de Jean-Michel Aulas.
Merci Edouard, bonne soirée.
À la prochaine.
Salut Doudou.
À plus. La fête à Lyon pour Jean-Michel Aulas et l'OL qui a gagné en plus, pardon. On va en parler tout à l'heure. Sur Lens, concluons avec Marco qui est là au 32-16. Salut Marco.
Bonsoir messieurs. Un honneur d'être dans l'after.
On est très content de t'avoir.
Gilbert, franchement, la classe.
La classe pour Lens, surtout, là.
La classe pour Lens, mais voilà, un petit mot pour vous. vos analyses, vos débriefs, c'est de la vraie analyse de football, des vrais connaisseurs. C'est pas comme sur d'autres antennes télévisuelles, on va dire.
Ouais, les cite pas, hein, faut faire de mal à personne.
Voilà, exactement. Non, mais saluer avant tout le Racing Club de Lens dans son ensemble. Un club qui est reparti de rien il y a 3 ans en arrière, on était 4 ans, on va dire, on était quasiment en national, et là on est sur la Ligue des Champions, c'est incroyable. Le beau travail du club, le président qui chante à la fin, c'est pas au PSG qu'on verrait ça.
Ah non, excuse-moi, mais on a vu mieux aujourd'hui. On a vu le maire de Marseille qui faisait le capot chez les Winners à Marseille. Ça,
oui, ouais, mais en même temps, ils fêtaient leur 30 ans de leur succès avec des champions.
Bon,
on en reparlera tout à l'heure.
Là, sur Lens, mais tu as raison de parler d'Ougourlian, parce que finalement, on a beaucoup parlé de Haise, on a beaucoup parlé du directeur sportif, des joueurs importants, et assez peu du président. Bon, il est incontestable.
Mais c'est plutôt bon signe, super.
C'est comme les arbitres, c'est quand t'en parles pas, c'est qu'ils ont été bons.
C'est plutôt bon signe, un président en retrait. De toute façon, il n'y a pas réellement de recette, président interventionniste ou pas. Lionel a connu, lui, un club où le président était très discret, où la star c'était l'entraîneur. À Marseille, il y a eu pour habitude pendant longtemps d'avoir des présidents parfois trop présents. À Lyon, il était extrêmement présent. C'est de trouver la bonne distance surtout qui compte. Le problème au PSG, c'est que tu as l'impression qu'il est omniprésent et omniabsent en même temps. On n'arrive pas à comprendre réellement. Et je trouve qu'à Lens, ils ont trouvé la bonne distance. Hein. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas de règle absolue sur comment ça doit être, en fait.
Ça a été une partie de la réussite, je trouve, moi, de ce club, tout simplement parce que il y a un président qui a su s'entourer et qui a su faire confiance, la technique aux techniciens, et lui. Et ça, c'est la base de tout. C'est dans les entreprises, c'est la même chose. Tu peux avoir les meilleurs projets, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu mets pas les bons hommes aux bons endroits, sans vouloir chercher la gloriole, sans vouloir chercher ce que tu veux, c'est donner du plaisir à tes supporters, à tes joueurs, à ton staff, à tout ça. Et puis, en fin de compte, si t'as pas de gloriole à la base, tu t'en fous. La gloire, elle vient qu'à la fin. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui, et t'en parles aujourd'hui, Gilbert, du président, tout simplement, parce que dit, on a oublié. Mais c'est lui qui s'est fait oublier. Et quelque part, ben, tant mieux, et c'est bravo, parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette humilité. Et je pense que aujourd'hui, la gloire du RC Lens, c'est aussi parce qu'il y a cette humilité dans le staff de directoire. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pas partout pareil.
Ok, merci Marco. Et puis rappelle quand tu veux dans l'after, hein, t'es le bienvenu.
Ah, mais avec grand plaisir, j'en passerai l'occasion. Je passe dans d'autres émissions comme Roten ou autre. Et c'est un plaisir, franchement, changez rien, continuez comme ça. Et une petite dédicace à l'équipe de mon fils qui sont au tournoi à Bordeaux. Continuez comme ça, les gars, vous êtes des guerriers, je suis fier de vous.
Ça marche, voilà. Merci Marco, bonne soirée.
Comme les Lensois.
On va parler de l'OM dans quelques instants. Valentin Rongier, il y a quelques secondes, dans la zone d'interview à Marseille, a dit que c'était un match honteux ce soir face à Brest et que la troisième place est une déception. Voilà ce qu'a dit Valentin Rongier. On va évoquer l'OM dans quelques instants. On aura Manon au 32-16 avec nous qui sort du stade. On se retrouve tout de suite. Je rappelle qu'on est là jusqu'à 1h du matin. Juste après minuit, on débattra longuement de la course à l'Europe. Hein. Rennes, Lille, Monaco, ou peut-être pas Monaco. Ce sera tout à l'heure. Supporters de ces trois clubs, on vous attend.
RMC jusqu'à 1h.
L'After Foot.
Gilbert Bribois.
23h48 jusqu'à 1h du matin. L'After exceptionnellement est là ce soir, avant dernière journée de Ligue 1. Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier est là, l'OM au programme. Juste une petite image, on a vu le bus du PSG là qui attend les joueurs à la sortie du stade de la Méno. Et Titi Oleksiak, Daniel, Lionel au premier rang en train de manger un sandwich et de se boire une petite Corona pour fêter ça. Je sais pas si c'est autorisé là, mais voilà, ils sont là.
Bon, tu peux autoriser. Une petite Corona. Pourquoi ça le serait pas? Il peut quand même.
Il y a une petite Corona pour Galtier aussi. Ah voilà.
La Corona qui était la bière préférée de
Jacques Chirac, bien sûr.
Évidemment. Oui. Ancien président. Mais
alors, c'est pas la bière qui te fait le mieux récupérer. Mais normalement, quand tu bois la bière, tu récupères bien.
Si je peux me permettre un conseil, avec un petit citron vert, c'est meilleur quand même.
Ah oui, un peu de sel sur le bord aussi.
Voilà. Mais tout ça, bien sûr, avec modération. Hein, c'est important.
Évidemment.
Bon, Marseille, on a Manon au 32-16 qui est avec nous. Salut Manon.
Bonsoir.
Manon, tu sors du stade.
Bonsoir Manon.
Oui.
Est-ce que tu as vu le maire de Marseille faire le capot dans le virage?
Non, je suis arrivée trop tard.
Ah.
Bon, je suis pas sûr que t'aies raté grand chose, Manon, hein, t'inquiète pas, t'as rien raté. Hein.
Ouais, mais si, quand même. C'est peut-être le seul spectacle qu'il y avait à voir au final avec les tifos. Hein.
Bah, alors attention, parce qu'apparemment, ils connaissaient pas trop les chants. Hein.
Oui, mais bon, entre le match et ça, je préférais ça finalement.
Bon, le match, t'es comme Rongier, tu dis que c'est une honte?
Mais c'est une honte, mais à l'image de tous les matchs à la maison cette saison, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tous les matchs, je sors en me disant ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils jouent trop. Ça a été,
tu sais combien de points l'OM a perdu à domicile cette année?
Non, je ne veux plus les compter.
23 points.
Non, mais on a été nommé à domicile. Tous les matchs, je suis ressortie du stade dépitée. Je suis ressortie à chaque fois, je sortais en me demandant ce qui allait se passer encore.
Et pourtant, la plus belle ambiance de France.
Ben, pourtant, mais ils ne nous méritent pas. Honnêtement, ils ne nous méritent pas. Là, je sors, ils ne nous méritent pas. Je ne peux pas, non. J'ai vécu une saison la plus éprouvante, je pense, depuis longtemps.
Bon, après, ce soir, bon, t'avais le podium à peu près acquis, enfin, je sais pas.
On savait, de toute façon, qu'on finirait troisième, voilà. Acquis, on pourrait pas les deuxièmes, mais même, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une raison, en fait. C'est pas une raison d'un spectacle aussi, enfin, vraiment, honnêtement, Rongier, c'était le meilleur joueur, et encore, quand je dis meilleur, il a été moyen.
Daniel, Lionel, vous êtes d'accord avec Manon?
Bah, moi, effectivement, dernier match à domicile, que ça se termine de cette façon-là, où t'es mauvais, où tu fais rien. Alors, ok, d'accord, la bataille, on va dire, était perdue, puisque la deuxième place, elle était abandonnée, qu'il y ait une forme de résignation. Bah, après, c'est bon, t'es professionnel, tu digères, t'as la semaine pour
mais
t'en
pas
remettre.
À l'OM, tu peux pas. À l'OM, tu peux pas.
C'est ce que
ça.
Je suis en train de te dire, possible. Lionel.
Ouais, j'ai t'as raison.
Je dis, t'as la semaine pour digérer, t'arrives le match, c'est le dernier de la saison. En plus, il y a eu des fêtes dans tous les sens cette semaine. Ce soir, tu termines, tu fais un festival, tu me cartonnes l'adversaire, tu gagnes. Et puis, au revoir tout le monde. Tu fais des beaux au revoir à tes supporters. Tu leur dis à l'année prochaine, en espérant dès la rentrée qu'il y a la Ligue des Champions. Et puis voilà. Tu t'en vas pas comme ça, quoi. Tu termines pas sur cette note-là.
Je dis une connerie parce que je dis à l'OM, tu peux pas. Mais non, c'est quand tu fais ce métier-là, tu ne peux pas. C'est tout.
Ah ouais,
devant tes supporters, c'est partout pareil.
C'est dommage,
alors encore pire à l'OM, mais c'est partout pareil. Tu dois terminer de très belle manière. Tu dois. Enfin, t'as parfaitement raison. C'est pas normal. Alors après, je pense, en analysant, sans parler du match de soir, je pense aussi que. Je l'ai souvent dit durant tous les afters quand on débriefait l'OM, je disais que attention, cet OM, je le préfère, cet OM de Tudor, je la préfère en contre. Et souvent à la maison, poussé par le public, il se devait d'avoir le monopole du ballon, de garder la balle. Il tombait contre des équipes qui jouaient très regroupées et ils avaient beaucoup de mal à convertir leurs actions en but et déjà à se créer des vraies occasions de but. Ça, c'est face à des défenses regroupées. Et ils se prenaient des comptes. Et je pense que le fait qu'ils soient à la maison poussés par leur public, ben, en fin de compte, ça ne leur convenait pas. C'est pour ça qu'ils étaient meilleurs à l'extérieur, où on les a vus pas mal de fois marqués en contre. C'est peut-être une des explications, mais ça n'explique pas tout, parce qu'il y a eu des comportements, il y a eu aussi des fractures, hein, dans le vestiaire. Attention, hein, va falloir en parler, parce que aussi l'OM, là, il va falloir gérer cette qualification, peut-être en Champions League. Il va falloir maintenant, c'est quoi? Il faut pas qu'il passe par un tour préliminaire. On est sûr de ça?
Oui, bah oui, évidemment. La Roma va pas finir sur le podium. Il faudrait qu'il gagne la Coupe d'Europe et qu'il
finisse
sur le
podium. Maintenant,
juste les gars, Tudor a dit il y a quelques instants en conférence de presse qu'il a reconnu, il a dit effectivement cette saison on a manqué le talent devant.
On s'attendait pas à ce qu'ils nous le disent. On a très bien compris que c'était ça le vrai problème.
Après, il en avait des attaquants. Hein, il les a pas tout le temps fait jouer. Hein. Et
ouais,
ensemble.
Franchement, il avait pas assez de talent devant. Il avait pas un vrai neuf. Il a eu Alexis Sanchez qui est pas un vrai neuf, qui lui a fait le taf toute l'année avec un nombre de buts qui finalement est assez inférieur à tous les meilleurs.
Combien de fois il a été associé à quelqu'un d'autre? Combien de fois il a essayé? Je crois qu'il a dû essayer de le mettre trois fois et encore durant le match.
Il n'avait pas de neuf pour l'associer. Il n'a pas trouvé la bonne formule de ce côté-là. Il a fait une saison où finalement, malgré tout, il faut quand même dire qu'il a plus de points que l'équipe qui a fait deuxième l'année dernière. Il a emballé les foules souvent, déçu parfois, à l'image de beaucoup d'autres équipes de Ligue 1, au moment de faire les bilans, si ça fait plaisir à plein de gens de dire que c'est une saison décevante, eh ben, voilà, s'ils veulent, ils peuvent dire même que c'est une saison ratée. Je ne vois pas tellement ce que ça apportera. Ce qui est le plus important, c'est de dire que l'OM a fait 2 l'année dernière, 3 cette année, Ligue des Champions l'année dernière, peut-être encore cette année, ou en tout cas à nouveau Coupe d'Europe. La réflexion, elle doit être comment tu fais pour progresser ? Tu analyses les erreurs que tu as commises cette année, c'est l'inefficacité à domicile, c'est la façon, tu l'as dit, de jouer qui était délicate à domicile parce qu'ils avaient du mal à faire le jeu, ils étaient plus à l'aise à l'extérieur, peut-être parce qu'il y avait un jeu qui était plus ouvert face à eux. Ils doivent mettre tout ça dans la balance pour tout analyser. Est-ce qu'il va falloir, si Alexis Sanchez reste, trouver un neuf ou est-ce qu'il faut continuer? Bah, ils l'ont trouvé, ils ont dépensé 30 millions pour l'avoir. Il s'appelle Vitinha. Donc il va falloir qu'il fasse une grosse préparation, qu'il s'adapte et qu'il montre que c'est lui maintenant le neuf.
Mais
de
là,
cette équipe.
C'est là où il va y avoir le problème, Daniel.
Pourquoi
parce que maintenant tu dois, parce que cet effectif-là, et d'ailleurs Monaco l'a connu ce problème, c'est-à-dire que tu dois, est-ce que tu construis un effectif pour faire la Champions League, et étant donné que tu dois passer par ces matchs de qualification, ça veut dire que ton effectif, comment tu vas le gérer ? Est-ce que tu vas attirer les joueurs parce que tu vas être en Champions League ? Est-ce qu'ils vont venir parce que t'es l'OM ? Est-ce que t'es... Tu comprends le souci ?
Oui, non, mais
est-ce
ça, que... tout le monde et puis, a... Est-ce toutes que tu les dois... équipes ont ces problèmes-là. Ils vont faire une sorte de moite-moite parce qu'ils ne peuvent pas, ne pas dépenser parce que sinon,
ça veut dire
que t'as pas l'ambition d'y aller. Et après, si t'y es, tu peux pas faire ton mercato en 48
heures. Et ça va être un souci. Ça veut dire que tu vas pas pouvoir attirer les meilleurs joueurs parce que quand on analyse le coaching ou le management de Tudor cette année, en fin de compte, il a pas besoin d'un effectif énorme, il a besoin de V12, il a besoin de mecs extraordinaires, des pontes, 11 mecs qui soient au niveau européen dans le top 10. Il faut que tous ces 11 mecs soient dans le top 10 parce que de toute façon, après, les autres, ils jouent pas. Il les met de côté, il est dans son schéma et il reste comme ça. Donc,
ouais,
il lui faut pas un effectif énorme.
De toute façon, il pourra
énorme.
Pas faire ça. Hein.
Il pourra
faire
pas.
Ça, hein.
Et c'est là qu'il y a un problème.
Moi, je pense qu'il a besoin.
Et c'est là qu'il y a un problème.
Le 9, en fait, on ne peut pas dire qu'il a besoin d'un 9 parce qu'encore une fois, il y a 30 millions de dépensés. Donc, ça veut dire que c'est Vitinha. Si Alexis Sanchez reste, et logiquement, c'est parti pour, il manque un joueur devant parce que Malinovski, ça n'a pas fait l'affaire à part un peu au début. Parce que Payet va partir. Parce que Under, je pense, n'est pas assez fort pour aller encore plus haut. Donc, il va falloir le troisième homme devant. S'il continue à jouer comme il joue là, il va falloir qu'il renforce avec un milieu de terrain supplémentaire et probablement créateur. Et derrière, oui. Il va falloir
ça
également.
Ça fait déjà trois joueurs.
Mais on n'en est pas encore à parler du recrutement, de vers là où ils vont aller. On en est pour l'instant à terminer cette saison, à se poser les questions sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et effectivement à peut-être analyser les 2-3 postes qu'il va falloir recruter. Et je pense que un joueur par ligne, c'est le minimum. Faire partir des joueurs qu'on déçu et qui vont.
C'est toujours difficile. C'est toujours difficile de vendre des joueurs qui n'ont pas fait une bonne saison.
J'aimerais que Manon reprenne la parole. Là, toi, tu te projettes déjà vers la suite, Manon. Bon, t'es déçu pour ce soir, mais Manon, on va se poser la question. Tudor, Payet, tout
alors,
ça.
Tudor, pour moi, c'est pas tant un mauvais entraîneur. Hein, parce que on peut pas dire, il finit deuxième, il a beaucoup de points. C'est juste qu'il a un schéma où il a pas les joueurs, comme vous dites, il a pas les joueurs pour faire ce qu'il veut faire. Il a pas
moi, je suis parfaitement d'accord avec ça.
Il a pas les joueurs pour pouvoir faire son schéma tactique qui fait que c'est un bon entraîneur. Il s'est fait 2-3 loupés, mais quel entraîneur se loupe pas?
Ça veut dire quoi? Il a pas les joueurs, il lui manque quoi en fait?
C'est pas qu'il lui manque, c'est que il lui manque la qualité. Pour moi, c'est ce que je voulais dire.
Ouais, d'accord, mais la qualité, il pourrait jouer autrement que la qualité lui manquerait.
Non. C'est pour ça que je dis que Tudor, dans cet effectif-là, peut-être que Tudor n'est pas le coach idoine pour coacher cet effectif avec ces moyens-là à l'OM.
Ça va être pareil l'année prochaine, hein, parce que chaque année, c'est le même problème.
Et il y aura une fracture.
À chaque fois, on n'arrive pas à recruter des joueurs vraiment... du top 10 parce que on joue pas vraiment les places, on est décevant et du coup chaque année c'est le même
mais
problème.
Mais tu les auras pas ces joueurs,
oui,
mais faut arrêter.
On n'a pas les budgets.
Attendez, si vous comprenez pas la dimension de l'OM et que vous continuez, moi tous les ans je dis la même chose, vous continuez à voir trop gros pour l'OM. Vous continuez à voir trop gros. L'OM avec les moyens qu'ils ont, c'est pas une équipe Ligue des Champions l'OM.
Mais ça, on l'a bien compris.
C'est pas une équipe qui est construite et qui a les moyens de la Ligue des Champions, parce que chaque année, ils bricolent, ils refont l'équipe, ils vendent pas les joueurs, ils font pas de grosses rentrées. Là, ils ont encore dépensé 30 millions pour un attaquant. On n'est même pas sûr que ce soit un attaquant super fort, et 30 millions, c'est un des plus gros transferts de l'histoire du club. Et il faut avancer doucement. Il faut vraiment commencer pas à croire que des stars vont arriver et tout. Il va pas y avoir des stars. Et l'année dernière, quand même, t'as eu quelques joueurs qui sont arrivés, t'as eu quelques bonnes trouvailles.
Oui, parce que t'as fait la Champions League directement. Là, tu l'as fait pas directement.
Je remercie Manon au 32-16. C'était super de nous appeler à la sortie du match. Faut qu'on fasse une pause et puis ensuite on va continuer le débat. Et puis en plus là, concernant le tour préliminaire de l'OM, j'ai quelques noms d'adversaires à vous donner puisque vous savez qu'il y a pas mal de championnats qui se terminent là et donc on commence à avoir quand même une idée des adversaires potentiels de l'OM.
Tu veux dire que tu vas être capable de faire un truc qui ressemble à des chapeaux?
Non. Non, ça je peux pas. Par contre, te donner des adversaires potentiels, je peux. Voilà. Je le fais dans quelques instants. On est là jusqu'à 1h du matin. Ensuite, il y aura la course à l'Europe. Rennes, Lille, Monaco, supporters de ces trois clubs, on vous attend. On parlera également de Nantes et d'Auxerre. Lionel Charbonnier tremble, sachez-le. Et il nous dira s'il est confiant ou pas tout à l'heure. Et puis avant 1h du matin, la Bundesliga avec Paulo Breitner. Et finalement, le Bayern qui a réussi quand même à être champion ce soir. Parce que Dortmund, ils ont fait un peu caca-culotte quand même, comme dirait Jérôme Rantaine. On en reparle tout à l'heure. On est là jusqu'à 1h du matin.